Bonjour et bienvenue sur L'Arpenteur, un podcast où on vous parle de jeux de rôle en solitaire. Le jeu en solitaire, c'est du JDR, sans MJ, sans joueur, et vous êtes seul pour remplir ces deux rôles. Si ça vous plaît, partagez sur vos réseaux, commentez, mettez des étoiles, des pouces, vous savez faire. Bienvenue dans l'épisode 3 de L'Arpenteur. Je suis Sandrone, la voix qui vous parle des jeux de rôle en solitaire. 5 minutes, c'est le temps de marcher de ma cuisine au train qui m'emmène au travail. Le temps d'un café rapide entre deux cours, le temps d'attendre un bus les jours où ça circule bien. 5 minutes, c'est court quand on est en retard, interminable quand on fait la queue à la boulangerie. 5 minutes, c'est bien trop court en tout cas pour se lancer dans une partie de jeu solo. À moins que...
L'Arpenteur, des jeux en solitaire.
À moins de nous lancer dans des jeux justement conçus pour vivre une expérience courte, condensée, de se plonger dans un micro-rêve, comme on en fait parfois, sans bien savoir ce qui se passe, les soirs où le rythme des transports l'emporte sur notre héroïque résistance au sommeil entre deux stations. C'est grâce à Angela Kidam, grande conservatrice du Club des Ermites, que j'ai découvert un jeu qui ne payait pas de mine. 5 minutes d'Emilie O'Hare, traduit un peu plus tard par ses soins. Bourré de préjugés, pourtant déjà bien éprouvés par la diversité incroyable des jeux et expérimentations de la communauté indé, je me disais que ça n'allait probablement pas donner grand-chose, un jeu qui nous promettait de vivre une aventure en 5 minutes. Mais, comme à ce moment-là, j'avais justement 5 minutes avant que le four ne m'appelle pour retirer de son ventre brûlant un cake au citron qui titillait le mien, de ventre, je me suis lancé dans l'expérience. Vous êtes un aventurier et vous vivez pour ce merdier. Vous allez partir en quête pour ensuite la narrer dans votre fidèle journal de bord. Il vous faudra de quoi écrire, un des 6 et 5 minutes. Prévoyez d'utiliser un chronomètre, le temps est un élément crucial. Ok, ça m'intrigue. Si je raconte la quête dans mon journal, c'est que j'ai survécu à l'aventure. Pas de suspense. Mais du contrôle sur ma narration. Lancez les dés, vous êtes... 4. Un nécromancien des montagnes. Intriguant. Lancez encore, vous avez le trait suivant. 5. Amoureux. Aïe, j'aime pas trop jouer ça d'habitude. Et maintenant, la quête débute. Lancez encore, vous voilà face à... 3. Une puissante mage. Une rivale peut-être. Ou la personne que j'aime. Vous avez fini la quête, ou vous avez au moins fait quelque chose. Peut-être avez-vous accompli victorieusement la quête, peut-être pas. Vous quittez la bataille avec... 5. Le corps fatigué et douloureux. Vous avez maintenant du temps libre. Souvenez-vous de votre aventure et décompressez en écrivant dans votre journal de bord. Faites vite, un aventurier ne peut guère prendre le temps de se reposer. Vous avez 5 minutes. Embellissez les détails, mais sans vous éparpiller, faites glisser votre stylo, réfléchissez à la façon dont votre parcours et vos traits vous ont été bénéfiques ou néfastes pendant le conflit. Réfléchissez à ce qui vous contraint à aller de l'avant. Jeudi 23 octobre 2821. Caveau du Mont Tyrannique. Mes recherches avancent. Quelque chose me dit que nous serons bientôt réunis, mon aimé. Ton corps est propre, sain, guéri des terribles blessures que nos ennemis t'ont faites subir. Il ne manque que ton âme pour l'animer et nous réunir. Hier, j'ai réussi à faire revenir du néant l'âme d'un chat perdu. L'animal, bien que profondément traumatisé par son séjour dans le grand silence, semble se réjouir d'avoir retrouvé la matière. Il nous faudra probablement des mois pour te guérir, pour te redonner goût à notre vie calme et studieuse. Mais je serai là pour t'aider. Ils sont nombreux à critiquer mes recherches. Cet imbécile d'Osnella Grant a tenté encore une fois aujourd'hui de me voler ton corps sous prétexte de t'offrir une sépulture décente dans son caveau familial alors que tu avais rompu vos fiançailles il y a bien longtemps déjà. J'ai dû me battre. Je sais que tu n'aimes pas ça quand je me bats. Mais quel autre choix avais-je? J'ai dépensé beaucoup de force vitale pour la repousser et ce soir je suis fourbu et frustré de ne pas avoir la force d'appeler ton âme dès aujourd'hui. Ah, le four m'appelle. C'est court, 5 minutes. Inéluctablement, vous êtes interrompu. Vous devez arrêter d'écrire à cause 3 de blessures douloureuses, physiques ou non, anciennes ou nouvelles. C'est comme lorsque nous avions affronté les jumeaux Van Cleef au tournoi des 5 fleurs. Les vieilles blessures portent encore du sens. Leur poids est trop fort. Demain, je serai plus prêt de te revoir. Voilà, 5 minutes pour jouer une scène, une histoire, se laisser transporter ailleurs. Un personnage dont on ne sait presque rien, une simple fenêtre entrouverte sur la vie d'un autre ou d'une autre, qu'on n'a pas besoin de connaître davantage. Angela a organisé une jam autour de ces jeux en 5 minutes et il y a des trouvailles parmi les jeux soumis. Que faire de jeux si courts, de cette bouffée créative qu'ils suscitent? En ce qui me concerne, je suis satisfait de l'histoire de ce nécromancien amoureux. Je n'ai pas tellement envie d'explorer plus avant le concept, le cliché même, tant il paraît difficile d'être original quand on est pressé par le temps. Pourtant, comme souvent, la contrainte est féconde, et la pression du chronomètre nous met vraiment dans la peau de quelqu'un qui poserait ses derniers mots dans son journal alors que le destin frappe à sa porte. Il y a une tension forte qui anime ces 5 petites minutes dédiées à ce fragment d'imaginaire. En prenant un peu de recul par rapport à cette expérience intense, je me dis que j'utiliserai volontiers ce jeu ou un jeu similaire la prochaine fois que je devrais créer un personnage. Peut-être même que je choisirais de jouer une courte scène avant la partie hebdomadaire lors d'une campagne au long cours pour donner du corps à ce rôle. Pour vivre un moment d'introspection imaginée quand le jeu de rôle nous en offre assez peu d'une manière générale. Merci à Angela de m'avoir fait découvrir ce jeu, et bien d'autres d'ailleurs. Comme vous pourrez le faire en écoutant la conversation que nous avons eue ensemble.
L'Arpenteur, des entretiens avec des joueurs.
Aujourd'hui, dans L'Arpenteur, nous sommes avec Angela, dont je vais vous lire la magnifique présentation Itch.io qui parlera bien mieux que ce que je ne pourrais le faire. Alors, tu nous dis « Je suis un dinosaure galactique qui aime les JDR, l'illustration, la science-fiction et qui se questionne sur la société. Aussi, j'essaye d'être la plus respectueuse possible de toutes et tous, les êtres humains et tous les autres animaux. Vous trouverez ci-dessous les jeux et les textes que j'apprécie. » Voilà. Donc, bonjour Angela.
Bonjour, voilà, c'est exactement ça. Très bonne présentation.
Que tu as écrite, donc forcément. As-tu quelque chose à ajouter à ce petit texte, notamment ton activité au niveau jeu de rôle, par exemple?
Je traduis de temps en temps des micro-jeux, vraiment des jeux très courts, de moins de 10 pages en général. Sinon, je fais de la mise en page. C'est mon métier, donc je la fais aussi. Enfin, je le fais aussi pour le plaisir, pour le jeu de rôle. Et très rarement, mais de temps en temps, ça arrive. J'écris quelques petits jeux. Vraiment, oui. Je reste souvent dans le micro-jeu de quelques pages, plutôt dans l'expérience, voilà, plutôt qu'un long jeu qui va prendre. Qui va partir sur plusieurs heures. Je reste sur l'expérience de quelques minutes ou une demi-heure maximum.
Ça tombe bien parce que c'est une des choses dont je voulais parler avec toi aujourd'hui. Alors pour voir tes jeux, il suffit d'aller sur ta page Itch.io, donc angela-kidam.itch.io. Et là, on va trouver plusieurs choses hyper intéressantes. Bon, les jeux sur lesquels tu travailles, des dessins aussi, un petit peu.
Oui, voilà, je fais de l'illustration et j'en mets pas mal en Creative Commons, donc non commercial, mais qui peut être utilisé dans n'importe quel projet, n'importe qui peut se servir.
C'est top ça. Et on trouve aussi des exemples des jeux sur lesquels tu as fait de la mise en page, etc. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est les jeux que tu recommandes en fait. Tu fais tout un... J'allais dire un travail, mais je suppose que c'est un plaisir, qui est de présenter plein de jeux. Et alors, il y en a sur ta page, et puis il y en a aussi dans une collection, surtout en anglais, qui s'appelle The Hermit Club, qu'on va retrouver sur Itch.io, qui est toute une collection de jeux solo.
Oui, cette collection, j'y mets vraiment tous les jeux. Donc, peu importe si c'est un jeu à imprimer, si c'est un jeu de rôle, on va dire, classique, ou si c'est plutôt du GN ou du lyrique, enfin, y a des choses très différentes, des choses très expérimentales, d'autres qui sont plus classiques. Et j'y mets absolument tout, tant que le créateur ou la créatrice dit qu'on peut y jouer tout seul, en fait.
Excellent.
Donc c'est très varié.
Dans le dernier numéro, on discutait un petit peu avec Gulix, et notamment sur le fait que on peut le voir à travers les numéros qu'on a fait jusque-là. En fait, le jeu solo, c'est quelque chose d'extrêmement varié, quoi. Il y a énormément de formes différentes, et notamment, il y a une forme de laquelle je voulais parler avec toi, qui était la forme très courte, courte et très courte du jeu solo. J'avais eu l'occasion de faire un test avec un jeu dont malheureusement je n'ai plus le nom sous la main, qui durait 5 minutes, tu sais, que tu nous avais mis sur le Discord de Jeux Solitaires.
Justement, ça s'appelle 5 minutes.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai oublié le nom.
Tout simplement. 5 minutes. En fait, c'est très très court et du coup, c'est assez simple à tester parce que 5 minutes, on peut facilement se dire, allez, je fais une petite pause de 5 minutes et j'essaye. Et ça peut être soit le jeu en lui-même, donc on le prend tel quel, on se dit, une fois que j'ai fini 5 minutes, j'ai fini le jeu. Ou ça peut donner lieu à, par exemple, ça peut servir de session zéro, ou ça peut être un outil pour la création de personnages, par exemple, pour un autre jeu. Donc je pense que ça, c'est un avantage du solo. Dans les jeux très courts, en tout cas en solo, ça peut servir d'outil pour d'autres jeux, ou ça peut servir de jeu tel quel, en fait. On en fait vraiment ce qu'on veut.
Oui, c'est hyper, hyper intéressant de ce point de vue-là. Et toi, tu les utilises comment c'est dans ta pratique du jeu solo? Tu fais surtout des jeux courts, c'est ça?
Oui, surtout des jeux très courts. En général, je fais surtout du jeu d'écriture. Donc ça, c'est, enfin, les journaling games, comme ce dont tu as parlé avec Gulix, c'est ma pratique un peu plus habituelle. Mais je joue pas sur plusieurs journées, je joue vraiment sur une demi-heure ou 1 heure vraiment grand maximum. Et donc ça, c'est ma pratique, on va dire, plus générale. Et de temps en temps, sinon, je suis sur les jeux vraiment beaucoup plus courts pour, comment dire, qui sont soit plutôt proches de la méditation ou de self-care, enfin le prendre soin de soi, ou soit dans la ludification du quotidien. Enfin, c'est, on prend son environnement réel et à partir de ça, on va y apporter une touche de jeu. Donc, en fait, ça fait un peu trois façons de jouer ou trois raisons de jouer au jeu solo.
Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer des jeux aussi courts? Parce que c'est pas une pratique habituelle, en fait, faut la découvrir déjà. Et ensuite, faut s'y mettre directement, quoi.
En fait, je pense qu'il y a deux choses, enfin, oui, deux ou trois choses. Déjà, j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi ou pour jouer. Donc, pour pas faire des projets, même si c'est de la traduction ou autre chose que je fais pour le plaisir, c'est du temps pour moi, mais c'est aussi du temps pour les autres. Et là, faire vraiment jouer, j'ai beaucoup de mal à jouer pendant très longtemps et à me dire, bon, bah, c'est que du temps pour moi et c'est tout. Et ça m'ennuie vite aussi. Donc, il y a ça. Et il y a aussi que les longues sessions ou les sessions répétitives sur plusieurs jours ou enfin plusieurs sessions, j'ai l'impression que ça devient vite une obligation parce que ça m'ennuie et du coup si je continue, c'est vraiment je me dis bon allez, faut que je finisse le jeu et maintenant je fais plus ça. Il y avait certains jeux d'écriture au début où j'écrivais et je me disais bon, demain je fais la suite, le lendemain je fais la suite et je continuais et ça m'amusait plus vraiment, en fait je le faisais parce que j'avais commencé une partie et je me disais bon bah faut bien que mon personnage y finisse quelque part. Maintenant, je fais plus ça. Si ça m'ennuie, j'arrête. Et tant pis, mon personnage, il est au milieu d'une situation, et ben, ça s'arrête comme ça, c'est pas grave. Vraiment, dès que j'ai plus, enfin, dès que ça me divertit plus, j'y perds de l'intérêt et je me dis, c'est fini. Ma partie finit telle quelle. Et c'est pour ça que je privilégie les parties courtes parce que j'y trouve plus de plaisir. Et c'est aussi l'occasion de découvrir plus de choses parce que je peux tester plus de systèmes, plus de jeux et voir aussi différentes façons de penser des game designers en fait, de voir tous les outils qu'ils ont pu auxquels ils ont pu penser. Je sais pas trop comment dire ça, mais c'est aussi de la découverte de façons de penser. Donc plutôt que de rester sur un seul système, j'aime bien tester plusieurs choses.
C'est au niveau humain, ça nous renvoie un petit peu à ce que tu disais dans ta présentation, de façon générale. Mais c'est aussi au niveau game design. Tu t'interroges sur le game design, etc. Parce que comme tu fais aussi des petits jeux expérimentaux, comme tu nous disais, est-ce que c'est une part importante, cette documentation, quelque part?
Oui, après, je sais pas si c'est vraiment de la documentation, c'est surtout de la curiosité sur, pas que enfin, le game design, mais aussi sur les thématiques que les gens vont aborder. Que sur Itch.io, il y a vraiment des personnes très différentes. Enfin, ils viennent du monde entier. Ils ont des façons de penser très différentes. Ils ont des cultures, enfin, tellement de choses et des vécus parfois qui peuvent être soit très difficiles aussi, parce qu'il y a des thèmes abordés dans certains jeux qui sont assez difficiles. Et il y a une question de Peut-être aussi voir les jeux comme des vecteurs de messages ou de valeurs, en fait. Il y a une, je m'interroge beaucoup sur la question d'empathie, parce que c'est quelque chose qu'on peut améliorer, en fait, l'empathie. C'est, je vois ça comme une compétence. Et il suffit juste de s'intéresser aux autres. Après, on se pose même plus la question, on s'intéresse aux autres, on voit qu'ils pensent de façon différente et qu'ils sont capables aussi de juste voir la vie en général comme une source de créativité. En fait, c'est aussi voir l'environnement, enfin ce qui nous entoure, un peu comme des oracles. Donc, c'est retomber dans le jeu en enfance. En fait, tu te dis, bon, bah tiens, je prends un miroir, ça devient ma mécanique de jeu. Il y a des choses comme ça. Je prends des bougies, c'est une mécanique de jeu plutôt qu'utiliser des dés. Je prends, j'ouvre un livre au hasard, je prends un mot au hasard dans la page, ça devient une source de création. Il y a des choses assez incroyables comme ça, surtout sur Itch en tout cas, qui se passent où tu peux tomber sur un jeu où la mécanique, ce sera pas basé sur des dés ni des cartes, ce sera basé sur regarder dans un miroir et regarder, je sais pas, la couleur du mur ou regarder dehors, enfin. Je trouve que c'est super intéressant, que ça renouvelle aussi notre pratique et notre façon de voir ce qui nous entoure aussi. Ça re-questionne beaucoup de choses.
Est-ce que tu as l'impression que dans des jeux très courts, le message, l'expérimentation proposée est plus claire que dans un jeu plus long où on enrobe en fait quelque part cette espèce de porte vers l'esprit de l'autre dans toute une fiction, souvent, ou une tonne de règles qui pourraient brouiller le message, peut-être.
Je ne sais pas vraiment, parce que dans certains jeux solo, qui sont très courts, on sent que c'est quasiment du premier jet ou que c'est une idée que le game designer avait depuis longtemps et il l'a juste couché sur le papier comme ça, et que ça peut être encore développé. Donc certains systèmes sont pas forcément très développés ou vraiment pensés jusqu'au bout, mais ça a le mérite d'exister et ça a le mérite aussi de donner des idées aux autres, parce qu'il y a aussi un peu ça quand les gens mettent en ligne leur projet, c'est un partage à toute la communauté. Je sais pas trop si on peut dire ça de Itch, mais c'est un partage un peu à tous les autres créateurs et créatrices de la plateforme. Donc certains systèmes, je pense, ne sont pas vraiment très développés, mais ça suffit à faire un jeu. Et parfois, c'est aussi plus plaisant de pas avoir à lire 100 pages de règles pour pouvoir jouer. Juste, on peut jouer en même temps qu'on lit, ou alors on peut lire une ou deux pages et jouer immédiatement après. Il y a cet aspect aussi. Enfin, du coup, c'est beaucoup plus accessible que certains jeux où il faut d'abord ingurgiter toutes les règles, les tester, les commencer à les maîtriser petit à petit. C'est pas du tout pareil au niveau du système de jeu. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des systèmes pas forcément finis, mais on va dire en cours de création et très courts, plutôt que des systèmes vraiment très finis qui font 200 ou même 50 pages. Je trouve que c'est déjà très long. Mais après, j'admire les gens qui arrivent à ingurgiter autant de pages et à respecter toutes les règles. Je trouve ça énorme.
Il y en a pas beaucoup qui arrivent à respecter toutes les règles. Hein. C'est parfois difficile. Hein. On fait des allers-retours, etc. Donc, ok, tu as quelques exemples de jeux très courts comme ça qui sont très intéressants à lire, qui vont susciter plein de réactions chez le lecteur. Ou en tout cas chez toi, hein, sans forcément se mettre à la place des autres.
Bah, récemment, un des derniers jeux auxquels j'ai joué, c'était un jeu dans l'esprit du self-care, donc de prendre soin de soi, de penser aussi à notre rapport aux autres. Faut que je retrouve le nom. C'était Propagate Love. Donc propager l'amour, et en fait c'est un jeu que j'ai vu récemment. Je pioche un peu au hasard dans la collection Hermit Club pour jouer, C'est un jeu où on nous demande petit à petit, donc paragraphe après paragraphe, on écrit des mots-clés sur une personne ou un objet qu'on aime, enfin, ou en tout cas qui nous est cher. Et petit à petit, on va venir écrire de plus en plus de mots liés à cette personne ou cet objet. Et à la fin, on a un peu comme un brainstorming, mais hyper bienveillant sur ce qu'on pense de cette personne ou et aussi sur ce qu'on pense de nous-mêmes et notre rapport avec cette personne. Et c'est vraiment l'esprit de, enfin, beaucoup de jeux sur Itch qui, au fil de la lecture, on commence à écrire ou à réfléchir parce qu'on n'est pas obligé d'écrire. Et je sais pas, ça redonne de l'énergie, c'est ultra bienveillant, c'est, je sais pas comment dire ça, c'est un boost d'énergie. Aussi, ah oui, il y a aussi, ça c'est en anglais, mais en français, récemment, il y a RL qui a publié Le complexe du brocoli, qui s'intéresse, enfin, qui parle de la communication non violente et qui est accessible vraiment à tout le monde. Enfin, je vois ça comme une introduction à la non-violence qui peut être donnée aux enfants. L'idée, c'est de se mettre dans la peau d'un brocoli, donc pourquoi pas, et de se dire, bah, tiens, j'aurais préféré être tel fruit ou tel légume, enfin, tel autre aliment. Et petit à petit, au fil de la lecture, on va venir écrire ou juste réfléchir et répondre dans notre tête aux questions pour aller en fait se questionner sur, bah, tiens, pourquoi j'aurais envie d'être tel fruit? Qu'est-ce que ça m'aurait apporté? Pourquoi je veux pas être un brocoli? Enfin, c'est le parler de brocoli, c'est assez amusant, mais ce qu'il y a derrière, c'est vraiment très très intéressant. Et c'est une très bonne introduction à certains thèmes de la non-violence aussi. Donc c'est ça aussi, c'est un boost d'énergie quand on y joue. Et après, il y a aussi beaucoup de, dans ce type de jeu, au début, il y a souvent beaucoup d'avertissements parce que si les personnes y jouent alors qu'elles ont un trauma ou quelque chose de, ou elles sont dans un état d'esprit assez, comment dire, assez bas, assez faible, ça peut être difficile d'y jouer. Donc des fois, il faut privilégier d'autres jeux qui sont plus légers et qui traitent pas de vie réelle, on va dire. Beaucoup de jeux ont un avertissement sur, par exemple, ça va aborder un thème très difficile. Il y a un avertissement au début avec prenez soin de vous, je sais pas, buvez de l'eau, faites une pause dès que ça va pas. Et tu sens que derrière, les game designers sont souvent ultra bienveillants, ou en tout cas, ils essayent de mettre le plus de bienveillance possible dans ce type de jeu. Et ça revient à l'idée que quand tu joues à ce type de jeu, tu as l'impression aussi de un peu d'appartenir à la communauté bienveillante de Itch. À pas appartenir à la communauté, mais je sais pas trop comment dire, c'est tu fais une expérience où tu sens que derrière c'est pas quelqu'un qui s'est dit bon bah tiens la non-violence pourquoi pas et qui a écrit 2 lignes là-dessus et qui a lancé son jeu. C'est vraiment des gens qui sont dans cet esprit-là, qui sont concernés en fait par les thèmes auxquels ils parlent, desquels il parle.
Oui, bah ça nous renvoie à ce que tu disais, entrer dans la tête des gens, développer l'empathie et finalement avoir accès sans nécessairement discuter avec eux, aux positions de toute un ensemble de créatrices et de créateurs qui travaillent sur ces sujets-là, quoi. Écoute, merci beaucoup pour ces éclairages. Avant de terminer. Je voudrais te demander, est-ce que tu as une idée de ta prochaine partie solo?
Ça va dépendre de ce sur quoi je vais tomber dans la collection Hermit Club. Je vais juste cliquer au hasard et voir ce que ça donne. Je pense que je vais quand même descendre assez bas parce que là récemment, j'ai mis une centaine de jeux qui étaient des jeux d'écriture, donc les Wedgehead, j'ai du mal à le dire. Et c'est assez intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse en ce moment. Donc je pense que je vais plutôt partir sur un jeu de type méditatif ou introspection, ou même revenir à des jeux d'écriture que j'ai beaucoup aimés, histoire d'y rejouer.
Ok, bah écoute, ça soulève encore plein de questions, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, notamment la question de la rejouabilité et de refaire des parties de jeux qu'on a aimées. Je laisse ça en question ouverte hein, pour nos auditeurs, et je te remercie beaucoup de ce moment passé en ta compagnie.
Merci à toi.
Voici qui conclut notre épisode de l'Arpenteur. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, ou s'il y a des défauts que vous voudriez voir corrigés, à le signaler en commentaire sur les différentes plateformes que vous utilisez pour écouter le podcast. N'hésitez pas non plus à le partager si vous jugez que c'est assez intéressant pour le faire. De plus, si vous avez des personnes que vous voudriez entendre dans ce podcast, des jeux que vous voudriez voir présentés ou des sujets que vous voudriez aborder, envoyez-moi un message sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., sur Discord, notamment sur le Discord JDR Solitaire, sur lequel je traîne assez souvent.